9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Yann Arthus Bertrand.
Bonjour.
Vous êtes en train de mettre votre téléphone sur silencieux, vous avez
Exactement.
Bien raison, vous êtes photographe. La marque japonaise Canon, les appareils photos, vous avez désigné comme le photographe le plus célèbre au monde, auteur du best-seller planétaire La Terre vue du ciel, également président de la fondation Good Planet. Vous avez tourné les films Human et surtout Home, 600 millions de spectateurs dans 134 pays du monde. Et là, votre actualité très attendue, c'est votre dernier film Legacy, ça passe ce soir sur M6 à 21h, Legacy en anglais. Ça veut dire héritage. De quel héritage s'agit-il, Yann Arthus Bertrand ?
C'est l'héritage que ma génération, qui a été une génération bénie, laisse aux autres, nous laisse, voilà exactement. Et c'est une réflexion. Quand j'ai fait mon film Home, il y a... On entend bien que le masque...
On entend. On n'a pas le choix, de toute façon, il faut le mettre sur le nez. La loi dit qu'il faut le mettre sur le nez.
Sur le nez, je le mets sur, je le remets
voilà,
sur le nez.
Voilà.
Et j'avais fait mon film Home et je voulais faire un peu un état des lieux parce que dans le film Home, j'étais très optimiste. Je pensais qu'on allait changer notre façon de vivre. On disait des choses qui n'avaient peut-être été jamais dites ou on devait l'expliquer d'une façon pédagogique. Et je t'aperçois qu'en fin de compte, on n'a rien changé. On consommait, on parle d'énergie fossile, quoi. Le film est basé sur l'énergie. C'est l'histoire de l'énergie du monde. D'abord, c'est une très très belle histoire qu'on raconte. Mais au moment de Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. C'est-à-dire qu'on est incohérent. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire, alors que les énergies renouvelables ont énormément augmenté. Mais ces énergies renouvelables, éoliennes, panneaux solaires, se sont additionnées aux énergies qu'on consomme et non pas soustraites. Donc on fait le contraire de ce qu'on devrait faire.
Et dans le même temps, il faut le dire aussi, vous en parlez, la population planétaire a évidemment augmenté. Le film est construit de cette manière, il y a votre commentaire avec des images aériennes absolument sublimes. Vous avez tourné en hélicoptère avec des drones. Parfois je me suis dit, il a des drones parce que vous êtes au-dessus d'animaux. C'est dans le désert ou dans une sorte d'endroit poussiéreux et ça ne soulève pas de poussière.
Alors ça c'est des images anciennes qu'on avait tournées. On a beaucoup tourné avec des archives. On avait tellement d'images qui n'avaient jamais été montrées. Vous savez, quand vous faites un film, une demi-heure ou une heure et vous faites 50 heures de rush.
Bien sûr.
Donc c'était ridicule. Donc je voulais vraiment utiliser tous les rushs que j'avais depuis 15 ans. Et tout ce qu'on a fait en drone, on l'a commandé. C'est-à-dire que par exemple, les images des usines de cochons en Chine qui sont démentes, les images du gaz de schiste aux États-Unis, on les a commandées à des dronistes par téléphone qui nous envoyait les images, donc beaucoup plus économique. C'est un film qui a coûté 12 fois moins cher que Home, mais peut-être un film encore plus difficile à faire que Home,
ouais.
Parce que ce qu'on dit est quand même terrible. Quoi. D'annoncer comme ça à la télévision la sixième extinction, on parle d'une certaine fin du monde, en fin de compte, et c'est très angoissant à faire. J'ai beaucoup d'émotions à le dire. C'est vraiment un film, la fin du film, et ouais,
mais la fin du film, quand même, il y a des solutions. On va en reparler après,
mais
il y a des solutions.
Les solutions existent, bien sûr.
On a tous vu ces images du réchauffement, des amoncellement de plastique dans les océans, la banquise qui fond, évidemment, on l'a tous vu, on a raison de le montrer, mais quand même, là où ça devient complètement neuf dans votre sujet et complètement absurde, c'est que j'ai appris grâce à vous, par exemple, que la plus haute tour du monde, qui est à Dubaï, 850 mètres de haut, utilise pour son béton du sable qui arrive d'Australie. Alors que s'il y a un endroit où il y a du sable, c'est bien le désert autour de Dubaï. On dit on est chez les dingues.
Parce que le sable du désert n'est pas bon pour faire du béton de bonne qualité. Il faut du sable de rivière, comme il n'y a pas beaucoup de rivières à Dubaï. Mais quand on a le pétrole, on peut tout faire. On peut manger à midi des crevettes qui viennent de Thaïlande, des avocats qui viennent du Mexique, et de la viande qui vient de Chine. C'est pas grave, puisqu'on peut le faire.
Voilà. Mais c'est bien là où est le problème. Et le sujet très sensible que vous traitez, c'est la surpopulation. Quand vous étiez enfant, Yann Arthus Bertrand, c'est vous qui le dites, il y avait sur Terre à peine plus de 2,5 milliards d'habitants. Et vous dites, en l'espace de ma vie, nous sommes 3 fois plus nombreux, 7 milliards, et vous allez plus loin.
Toutes les secondes, nous sommes 5 de plus sur la Terre. 5 de plus. 5 de plus. 5 de plus. Le temps de voir ce film, nous serons 20 000 de plus sur la planète. Dans 4 jours seulement, nous serons 1 million de plus. L'année prochaine, 100 millions de plus.
C'est la vraie question, on vous le dit, qu'il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. Tout le monde ne sait, rien ne bouge. Vous parlez de surpopulation, mais il reste quand même un tabou dans votre film. Vous ne parlez nulle part de contraception, ni de contrôle des naissances. Alors, pour quelle raison ?
D'abord, le film était déjà assez long, et on me le reproche un petit peu.
Non, mais le dire d'un mot quand même.
Mais je regrette de ne pas avoir parlé de l'éducation des femmes. dans les pays, la plus grande démographie galopante, c'est en Afrique. Et dès que les femmes, il y a de l'éducation, les femmes travaillent, ça change tout. Bon, ils savaient qu'il y a même en Afrique, on avait dans Human des femmes qui font la compétition entre eux pour avoir le plus d'enfants possible. Parce que quand vous êtes en Afrique, quand vous n'avez pas d'énergie, c'est quoi votre énergie? C'est vos enfants. C'est vos enfants qui travaillent avec vous. Et c'est vos enfants qui vont vous aider. Donc, dans beaucoup de pays africains, plus on fait d'enfants, c'est la richesse. Et en même temps, en plus, aujourd'hui, beaucoup moins de mortalité infantile. On vit tous beaucoup plus vieux, donc la population, bien sûr, augmente énormément. Mais tous ces pays, Bangladesh, Mali, Niger, si tout le monde vivait comme ça, aucun problème pour l'environnement. Aujourd'hui, qui sait que le problème, c'est 70% des gaz à effet de serre sont émis par 10% de la population mondiale. C'est nous. C'est pas ceux qui font des enfants, c'est nous aujourd'hui.
Yann Arthus-Bertrand, une femme va venir nous parler, vous parler, Hélène Manarino, le portrait inattendu tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Legacy, c'est ce soir sur M6. C'est le nouveau film très attendu de Yann Arthus-Bertrand. Ça commence par des images de vous très inattendues. Et je suis heureux de faire le lien avec Hélène Manarino. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bienvenue, c'est votre portrait inattendu justement.
Bonjour Yann Arthus-Bertrand.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, préserver le monde et le rendre aussi plus beau. C'est votre priorité. On va revenir ce matin sur vos origines, les vôtres. Votre évolution, finalement, comme la nature. J'ai perdu mon Eurydice, chanté par Callas, évidemment. Bercé par la musique classique, grâce à votre maman, surtout avec cet air d'opéra. Votre environnement, enfant sublimé par vos racines. Votre grand-père qui faisait des échasses et avec qui vous faisiez du football.
En échasse.
Et votre tante qui vous emmenait vers un petit étang pour vous baigner. Vous étiez assez trouillard, donc vous n'aimiez pas trop l'eau. Mais vous avez vu votre sœur nager avant vous. Votre sœur qui a 5 ans de moins, vous n'avez pas supporté. Vous vous êtes donc jeté à l'eau pour apprendre tout seul.
On connaît des histoires.
C'est vrai.
Qui t'a dit tout ça?
Mais elle le sait.
Je ne vous dis pas. Alors, déjà curieux, Yann Arthus-Bertrand, comme ce jour où, enfant, vous avez été intrigué par des petites maisons qui étaient en fait des ruches. Vous les avez regardées de trop près et vous avez été piqué partout. Un environnement festif, insouciant, pendant votre adolescence, rythmé par ça. Les chaussettes noires, évidemment. Alors observons les branches de votre adolescence, la musique, oui, avec cette énorme radio familiale chez vous. Vous enregistriez avec des bandes les musiques qui passaient à la radio. Votre sœur avait éternué sur un titre et cela vous avait beaucoup agacé, d'ailleurs.
C'est drôle.
Branche également télévisuelle. Il n'y avait pas de télé chez vous, donc vous aviez loué un téléviseur sans abonnement. Il fallait mettre des pièces pour avoir une heure de télé.
Des trucs,
incroyable. Mais tout ce qu'elle dit est vrai.
Mais c'est fascinant. J'ai pas entendu depuis 50 ans, ça.
Bravo Hélène.
Votre petit paradis, c'est quand votre grand-mère vous donnait des étrennes, votre plus bel achat, des klaxons pour faire beaucoup de bruit dans la maison. Alors Yann Arthus-Bertrand, il faut évoquer vos bêtises. Vous êtes très vite incarné en petite terreur, comme à la messe, où vous mettiez les doigts dans les touches de l'orgue de votre grand-mère pour que le son soit différent. Vous jetiez également les papiers des petits caramels sur les gens. Eh bien oui, vous enfermiez pour rire les enfants des amis de vos parents pour leur faire peur dans le grenier.
Ça vient tout ça.
Et puis, il y a eu votre collection du magazine Paris Hollywood avec des photos, bon, un peu coquines.
Ah oui, que vous... sexe dessiné.
Voilà, ouais, vous le dites, vous colliez ces photos dans le cahier de catéchisme.
Non.
Rien de grave.
Rien de grave.
Vous étiez dans la vraie nature d'un ado, tout va bien. Charmeur également, quand vous aimez, vous êtes prêt à tout, surtout pour Françoise, votre premier amour mannequin à l'âge de 16 ans. Vous lui apportiez des fleurs pour la séduire, évidemment. Et puis, il y avait aussi ces booms à la campagne, Yann Arthus-Bertrand. Alors, votre priorité, sans le savoir au début, c'était de préserver le monde qui nous entoure, les gens, les animaux, comme ce chimpanzé avec qui vous avez vécu, la planète plus généralement. Et si l'on contemple votre vie aujourd'hui, vous êtes un fin collectionneur de boîtes de sardines, de vos objets de voyage, et oui, de vos souvenirs. D'ailleurs, on peut s'en rappeler quelques-uns, comme en Inde, où des locaux vous faisaient à manger tous les jours, mais vous aviez envie de brouiller votre petit plaisir. Donc vous avez appris, justement, aux Indiens à faire les œufs brouillés. Vous avez
pas
fait pareil
plus.
En Éthiopie. Autre voyage en Afrique, vous êtes arrivé, vous êtes descendu de l'avion, alors on vous a piqué toutes vos affaires, et le jour de votre retour pour la France, vous avez décidé d'acheter à manger face à l'aéroport. Vous prenez donc des petits petit poisson grillé et le cornet avait été fait avec votre carnet de chèques.
Exactement. Incroyable. Quel punk.
Yann Arthus-Bertrand, vous avez toujours fonctionné avec le « rien n'est impossible ». Les tournages sont votre vie, vous adorez ça, vous ne vous arrêtez jamais. L'essence également de votre bonheur, votre planète idéale, c'est votre famille. Vos petits-enfants qui adorent être dans la maison du bonheur. Vous les emmenez faire du vélo, manger des glaces. Montrez votre façon de planter des pommiers sauvages, votre passion, votre potager et vos jus. Vous faites toutes sortes de jus. Alors Yann Arthus-Bertrand, une planète sereine, vous vous battez pour rendre la nôtre plus belle. Et que l'on regarde et que l'on aime différemment, et c'est toute la grandeur de Yann Arthus-Bertrand.
Merci beaucoup, gentil. Hélène Manarino. Donc, vous étiez impressionné, hein ?
Oui, parce que ma mère, avec qui j'ai des relations très très compliquées, et j'ai réussi d'ailleurs à m'excuser avec elle, parce que j'étais un gosse épouvantable, j'ai fait 14 écoles, j'étais une brute, j'étais vraiment un petit con. Et j'étais voir ma mère un jour sur son lit, et à la fin de sa vie, et mon père m'avait dit, tu sais, quand t'es pas... je suis parti de la maison, je me suis échappé. Et je dormais dans les cinémas, je rentrais par les portes de sortie, je dormais dans les cinémas, j'avais 17 ans. À 17 ans, à cette époque-là, on n'était pas majeur, c'était même encore maintenant, c'était pas comme aujourd'hui. Et mon père me dit, tu sais, ta mère, elle a pleuré toutes les nuits où tu n'étais pas là. Je me dis, moi, si mon fils m'avait fait ça, j'aurais été malheureux. Donc je vais voir ma mère, au bout d'un moment, je me mets à pleurer. Je dis, maman, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai fait, j'avais 60 ans. Ma mère, elle éclate de rire, elle me dit, mais on pardonne tout à ses enfants. Et ça m'a fait un bien fou qu'elle me dise ça.
Merci beaucoup Hélène Manarino, merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie du photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand, La Terre vue du ciel, c'est lui, Legacy, c'est ce soir sur M6. Hélène Manarino nous disait que vous étiez fin mélomane, on va parler de musique avec Laure d'Autriche. Juste un mot, vous avez déjà tourné en Argentine ?
Oh oui, on a tourné avec France 2, j'ai fait un livre sur l'Argentine vue du ciel. Et on a eu un problème, c'est que toute l'équipe de France 2 a été arrêtée une semaine, mis moi en prison, quoi, en gendarmerie, parce qu'on avait tourné un barrage. Et deux gros problèmes de corruption, le barrage de Yassir Etra. L'Argentine, c'est un pays compliqué. La diplomatie, les politiques en Argentine sont un peu corrompus. Il y en a quand même pas. Le tournage a été arrêté, on est rentré. C'est un vue du ciel.
Mais c'était quand ? Vous n'avez pas tourné du temps de la dictature ?
C'était à l'époque de Kirchner. Non, il n'y a pas si longtemps. C'était une quinzaine d'années. Et toute l'équipe a été arrêtée de France 2. Soi-disant parce qu'on n'a pas payé les chambres d'hôtel. Tu penses que l'équipe de France 2 ne paye pas les chambres d'hôtel ? En fin de compte, on avait tourné un barrage. Et il y avait des manifestants. Il y avait le gouverneur et la présidente qui étaient en effigie, pendus derrière. Qui expliquait pourquoi ils n'avaient pas été payés. Parce que souvent, les barrages sont faits sur des terrains qui n'appartiennent à personne. Donc, on vire les gens, il y avait de l'argent qui n'avait pas été versé. Et c'était un très mauvais souvenir.
Puisque vous parlez de France 2, donc France Télévisions, pourquoi ce film est diffusé sur M6 ce soir et non pas sur France Télévisions, Legacy ?
France Télévisions, c'est un peu ma famille. Mais ce film avait été refusé par toutes les chaînes parce que j'étais trop pessimiste. En gros, je vous passe les détails. Et M6 m'a ouvert les bras d'une façon incroyable. Hier soir, par exemple, on a fait un débat avec tout le personnel de M6 sur des projets d'environnement. Tu vois, visioconférence avec 50 personnes à qui on parlait. Donc vraiment, je n'ai pas à me plaindre parce que vraiment, j'ai trouvé un enthousiaste et une envie de sur ce film que j'avais rarement trouvé. Voilà, c'est tout.
Musique avec Laure d'Autriche. Je vous ai annoncé. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors, je répète, ce film n'est pas pessimiste.
Non, je l'ai vu. Il n'est pas pessimiste du tout.
Je pense que c'est mon meilleur film.
Voilà. Attention, parce qu'on voulait parler musique. On va écouter du tango. Et en cette année 2021, on célèbre les 100 ans de la naissance d'Astor Piazzolla.
Oui, compositeur argentin né en 1921, donc. Et sa musique, j'en suis sûre, vous dit quelque chose. Tango, l'un des tubes de Piazzolla. Alors,
de Grace Jones.
Bah, oui, voilà, ce rythme perpétuel. Et en même temps, il y a quelque chose de très libre qui résume bien l'homme qu'est Piazzolla. En Argentine, en fait, au milieu du XXe siècle, il a carrément sorti le tango des salles de danse.
Et il est réputé pour ça, les tangos.
Voilà, il a réinventé même le tango. Au cadre un peu rigide, il ajoute de la liberté et des éléments de jazz aussi, on l'entend bien ici. Piazzolla disait, parfois chez les musiciens classiques, il manque un peu de sel et de piment. Et c'est vrai que du sel, il y en a dans sa musique. Chacune de ses pièces est un petit drame expressionniste. Il raconte une histoire, il fait entendre une mélodie poignante. Exemple ici avec Adios Nonino qu'il écrit à la mort de son père et on entend très bien la nostalgie, la souffrance.
Et là, c'est du bandoneon qu'on entend ici.
C'est du bandoneon, instrument qu'on trouve très souvent dans le tango, instrument proche de l'accordéon, hein, et instrument non pas d'origine sud-américaine, mais allemande.
Ah bon ?
Alors, à la différence de l'accordéon, le bandoneon, vous savez, se joue assis, posé sur un genou, et puis on ne peut pas se déplacer en jouant. Et puis c'est un instrument aussi qui demande beaucoup plus d'efforts physiques, parce que le soufflet s'ouvre beaucoup plus que celui d'un accordéon.
Et vous dites qu'on entend des combinaisons d'instruments assez étonnantes.
Mais oui, c'est ça qu'on a chez Piazzolla, du bandoneon, du violon, du piano, de la voix. Et à mon avis, il y a quelque chose d'incroyable chez Piazzolla. C'est une musique qui est très belle et qui est douloureuse aussi, tellement elle est touchante. Ma musique a toujours été dramatique et je ne sais pas pourquoi, disait Piazzolla. Et voici ce qui est peut-être une de ses mélodies les plus poignantes dans une œuvre qui s'appelle Oblivion, oubli. N'écoutez pas ça lorsque vous êtes triste ou mélancolique, parce
non,
qu'à
Yann,
coup sûr, ça,
surtout pas.
Voilà, ça va vous arracher quelques larmes sans doute. C'est un homme qui avait besoin de reconnaissance. Dans ses mémoires, Piazzolla écrivait « J'ai un espoir qu'on écoute ma musique en 2020 et en 3000 ». Alors pour 2020, c'est réussi puisqu'on l'écoute toujours aujourd'hui. La plupart des extraits musicaux que vous venez d'entendre proviennent d'un coffret de 3 disques. Ça s'appelle « Nuevo Tango », édité par le label Harmonia Mundi. Puis il y a ce livre, la première biographie en français de Piazzolla qui vient de paraître, je l'ai entre les mains, ce gros livre rouge, écrit par Sébastien Haute-Maillou et Marielle Gare, un livre-disque intitulé Astor Piazzolla, Libertad, l'étonnant voyage d'un homme libre, aux éditions Parole.
Merci beaucoup, Lord Autriche. Réaction, Yann Arthus Bertrand.
Ben, j'ai noté, toi j'ai pris des petites notes pour le mettre sur ma playlist, que c'est magnifique.
Voilà. Je suis bien heureux, je me disais, mais qu'est-ce qu'il note sur son portable ? Il notait les recommandations de Lord Autriche.
Exactement.
La boucle est bouclée. Merci Laure, à très très vite.
Vous
restez avec nous, on va rester en musique, on va parler cinéma avec Marjorie Adelson, mais d'abord Youssou N'Dour et Christophe Maé.
Europe 1, Culture Média.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais y'a personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des fois venues d'Afrique.
Tout le monde sait des noms. Africa, you clean bolo. Oui, un petit ton, you dit que c'est une barre.
Laisse-moi seul sous ma grande ours. Aujourd'hui, je donne pas cher de ma peau à la peau. Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, mais n'est plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma poudre. Un jour, les seules ours blancs seront les peluches de vos enfants. Je crève de chaud. Laisse-moi seul de toute façon. Y a plus la place sur mon glaçon.
L'ours, c'était Christophe Maé, Youssou N'Dour sur Europe 1, titre dédié à la biodiversité et à l'écologie. Et Yann Arthus Bertrand, pendant la diffusion de la chanson, vous vouliez me dire quelque chose.
Oui, je veux dire que Christophe m'a appelé cet été, on s'est parlé tous les jours, et on a fait avec Baptiste, mon fils, le clip de cette chanson, voilà, sur la glace, avec des images d'ours formidables que nous a donné Claude Marion, qui est le spécialiste des ours. Voilà, j'ai découvert Christophe à ce moment-là. Et il viendra faire un grand concert gratuit à la Fondation Good Planet bientôt.
Fondation que vous présidez. Dans un instant, notre deuxième indispensable du jour, nous sommes avec Marjorie Adelson qui va nous faire une sélection de 3 films à voir, dont un qui est déjà favori pour les Oscars 2021.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Yann Arthus Bertrand, photographe mais également cinéaste. Bonjour Marjorie Adelson.
Bonjour.
Marjorie, comme chaque semaine, vous nous présentez les indispensables en VOD. Bon, les salles sont fermées. Et on va commencer par One Night in Miami. C'est disponible sur Prime Video.
Oui, c'est l'un des films favoris aux Oscars. Un film avec un concept assez original puisque c'est une reconstitution fictive d'une soirée qui a bien eu lieu mais dont on ne sait absolument rien. Alors vous allez comprendre, on est en 64 en pleine ségrégation et Cassius Clay, qui ne s'appelle pas encore Mohamed Ali, devient champion du monde de boxe. Malcolm X lui propose alors de célébrer sa victoire au calme, dans une chambre d'hôtel, avec deux autres légendes noires, le musicien Sam Cooke et le footballeur Jim Brown. C'est le début d'une longue nuit de réflexion sur la condition noire, comme cette discussion entre Malcolm X et Jim Brown.
Tu vois, Malcolm, il y a un paquet de blancs qui ne trouvent pas de mots assez forts pour chanter leur propre louange et se féliciter de ne pas nous traiter comme de la merde. Ils estiment qu'on devrait leur baiser les pieds, de trouver suffisamment de bonté dans leur cœur pour se comporter avec nous presque comme avec des humains. Un peu comme si tu t'attendais à ce que ton chien te décerne une médaille parce que pour une fois, tu lui as pas botté le cul.
Voilà, alors l'intérêt de ce film, c'est vraiment ces punchlines là que vous entendez et ces monologues enflammés autour d'une même question. Comment soutenir au mieux la communauté noire ? Alors évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Est-ce qu'il suffit d'être un modèle de réussite, on va dire, populaire comme Cassius Clay, ou est-ce qu'il faut forcément s'engager politiquement comme Malcolm X ? Eh bien, la réalisatrice Regina King, elle ne prend jamais parti, mais elle signe un huis clos intelligent au dialogue ciselé. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie résonance avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On se dit que l'époque a changé, mais les questions restent un peu toujours les mêmes. Un film qui fait réfléchir, One Night in Miami, sur Prime Video.
Donc cette soirée a vraiment existé, mais on ne sait pas évidemment
sait pas ce
qu'ils
se sont
dit, parce qu'il n'y avait personne d'autre que ces quatre-là. Le second film, Marjorie, que vous avez choisi, c'est Les Vétos, et c'est disponible dès demain sur OCS.
Oui, on connaît tous les déserts médicaux, mais il y a aussi les déserts vétérinaires dont on parle moins, et c'est justement le sujet de ce film. Clovis Cornillac et Nico, vétérinaire à la campagne, dans le Morvan plus exactement, et avec son associé Michel, ils soignent tout, les chiens, les vaches, les lapins, et même les escargots.
Non.
Si, si.
Bon.
Sauf que du jour au lendemain, eh bien, Michel lui annonce qu'il prend sa retraite. C'est Alexandra, une jeune femme fraîchement diplômée qui va le remplacer. Problème, elle est parisienne, elle a un profil plutôt de chercheuse et en plus, le feeling avec les patients, c'est pas trop ça. Un joli film sur la précarité des vétérinaires ruraux, un métier qui a beaucoup changé pour Clovis Cornillac.
C'est des gens qui travaillent non-stop, 7 jours sur 7, nuit, jour. Avoir une vie familiale, c'est compliqué. Ils n'ont plus ce statut de notable qu'on a pu connaître. Donc d'arriver à traiter tous ces sujets-là de manière très douce, très à hauteur d'homme et garder de la lumière et de la comédie avec quelque chose qui pourrait être tragique et terrible. Finalement, il y a comme ça un tour de force.
Voilà, c'est un film qui était sorti au cinéma en janvier dernier, un film plein d'humanisme. Le scénario est un petit peu convenu, mais c'est largement compensé par le superbe jeu des acteurs. Un film tendre à voir en famille, par exemple, dès demain sur OCS, Les Vétos.
Et puis pour terminer, pardon Marjorie, vous nous parlez du Tigre Blanc et c'est disponible sur Netflix.
Oui, c'est un film qui montre l'Inde comme on la voit peu au cinéma. On est très très loin de Bollywood. C'est l'histoire de Balram, un jeune garçon qui vit dans un village sans eau ni électricité. Mais Balram, il est ambitieux et il se débrouille pour se faire embaucher comme domestique dans une famille de riches. Sauf que très vite, il va mesurer l'écart entre son monde et le leur.
Excuse-moi, comment tu t'appelles ?
C'est Balram, monsieur.
Ah
Balram.
Oui, Balram. Alors, Balram, tu sais ce que c'est, Internet ?
Non, monsieur. Mais je peux aller au marché tout de suite et vous en ramener plein si vous voulez.
Non, non, ça va aller. C'est gentil, merci.
De rien, monsieur.
Voilà, ça a l'air d'une gentille comédie, mais en fait, pas du tout. Et c'est ça, justement, le génie du film. Très vite, il devient beaucoup plus sombre et dresse un portrait glaçant de l'esclavage moderne dans une Inde, au final, ultra-libérale. Alors, on comprend dès le début que Balram, il va s'en sortir, puisqu'on sait qu'il devient entrepreneur. Mais à quel prix ? Je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est culotté de la part de Netflix de sortir un tel film. Il n'y a pas de morale, pas de gentil, pas de méchant. Et le film laisse le spectateur se faire son propre avis sur Balram. Un film noir à l'humour féroce, c'est à voir sur Netflix, Le Tigre Blanc.
Merci beaucoup Marjorie Adelson et Yann Arthus Bertrand. Il y a un de ces trois films que vous avez envie d'aller voir ou pas du tout ?
Alors, le premier, ça a l'air assez excitant. C'est drôle comme le cinéma américain, de temps en temps, fait des choses complètement incroyables, difficiles à faire et qui marchent. Quoi, toi, ils savent faire.
One Night in Miami, ça s'appelle.
Voilà, exactement, j'ai noté.
C'est ça, pour ça que vous êtes allé allait chercher une feuille de papier dans la poubelle pour dire comment il recycle Yann Arthus Bertrand et un stylo. Et votre film Woman, il est en liste pour les Césars
oui,
ou pas du tout?
Il est sur les Césars. Comme cette année, il n'y a pas de coffret, c'est un peu plus compliqué. Puis le film a été tué, mais très très peu de gens l'ont vu. D'ailleurs, beaucoup de films cette année aux Césars qui ne sont pas sortis, donc c'est un peu compliqué. Si tu n'étais pas, journaliste dans le cinéma. Et Woman a été tué par le Covid, puisqu'il est sorti une semaine avant le Covid, le 7
avant
mars,
le
de la femme. Il sera sur la 5 le 7 mars au soir. Et on est en compétition, en effet, pour le César. Et je croise les doigts que c'est un film important. On a travaillé pendant 3 ans comme des fous là-dessus. Et c'est terrible de travailler si longtemps et de voir ton film qui. C'est le plof. Et après, le film ne sort plus. Il ne peut plus ressortir en salle. Alors, il est en VOD. On n'a pas eu beaucoup de presse. Voilà. Donc, et pourtant, c'est un film que j'adore. Voilà. C'est
Woman,
un film qui parle de.
Avec des milliers de témoignages de femmes. Merci,
c'est
Marjorie.
Un film qui peut changer votre vie, en tout cas, changer votre regard sur les femmes. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Il n'y a pas aucun problème. Mais en plus, on se tutoie maintenant. Merci, Marjorie Adelson.
Merci.
À très bientôt. Yann Arthus Bertrand, reste avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Yann Arthus Bertrand, son dernier film s'appelle Legacy, ça dure 2 heures, ce sont des images assez sublimes, parfois terrifiantes avec son commentaire et à la fin un message évidemment d'espoir et des solutions, on va en parler. Vous montrez des images que je n'avais jamais vues, par exemple ces images d'immeubles en Chine, sont des immeubles normaux, il y a une dizaine d'étages. À ceci près que ce sont des images qui sont des immeubles pardon, qui ne sont pas faits pour les humains.
Ah oui, on pense que c'est des logements sociaux et en fin de compte, c'est un élevage de cochons où les cochons naissent là, sont élevés là et sont tués sur place. Là,
sans
jamais voir le jour.
En étage, donc il y a des étages de cochons.
Voilà, c'est un peu le grand problème de l'élevage industriel aujourd'hui. On montre aussi ces élevages de veaux à perte de vue aux États-Unis, on dirait des camps de concentration.
Ouais.
La façon dont on traite les animaux est assez insupportable et personne ne veut le voir. Voilà.
C'est en train de changer quand même tout doucement, j'espère.
Si vraiment il y a une chose qu'on peut faire pour l'environnement, la plus facile à faire, c'est d'arrêter de consommer de la viande industrielle. C'est basique. On peut dire tout ce qu'on veut, on parle de solutions, et c'est énorme. Le poids de la viande sur le réchauffement climatique est gigantesque.
Ouais. Voilà. Et notamment les plantations de soja, quand on abat la forêt amazonienne, c'est pour faire du soja pour nourrir les animaux.
Nos cochons qu'on élève en Bretagne. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que les élevages de Bretagne sont près de la mer, pour que les bateaux arrivent avec le soja. Quoi.
J'avais pas pensé à cette chose.
Et 50% des antibiotiques qu'on consomme en France vont sur les animaux d'élevage, sur les cochons.
La conclusion du film, elle est à l'heure de la pandémie et du confinement, à l'heure du Covid-19. Et là, Yann Arthus Bertrand, vous faites le lien entre les calamités et vous êtes parfois difficile à suivre.
Et pourtant, les scientifiques nous avaient alerté devant ces risques de pandémie. C'est un peu comme pour le changement climatique, on ne veut pas y croire. Une pandémie tous les 10 ans, c'est vers ça que nous nous dirigeons si on ne change pas radicalement notre rapport à la biodiversité. En déforestant, capturant et vendant des animaux sauvages, l'homme a créé le cocktail parfait pour l'émergence de nouvelles pandémies. Le VIH, Ebola, la grippe aviaire et maintenant la Covid-19.
Est-ce que vous n'allez pas un peu loin? Quel rapport entre tout ça? Quel rapport entre la déforestation et le sida et la Covid?
Ça, c'est, tous les scientifiques le disent de façon assez juste. À force de déforester, on rapproche l'humain des grandes zones d'animaux. Tous les animaux portent des virus. Hein.
Ouais.
Et on vit avec des virus de toute notre vie. On s'habitue. C'est pour ça que les enfants, souvent, on renifle. Ils attrapent beaucoup, beaucoup de choses, des virus. Chaque année, on croise des millions de virus. Mais par exemple, on réagit et on se soigne. Là, c'est un virus compliqué. C'est des virus qui viennent des animaux, des animaux très puissants. Ce qui est incroyable, d'abord, ce qui est assez passionnant, c'est qu'aujourd'hui, les visons, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sans doute, que c'est l'animal qui a fait passer, mais ça, je n'ai pas le pangolin, mais le vison. On élève des visons.
Ça va être interdit là prochainement.
Au Danemark, pays de 4 millions d'habitants, on élevait 17 millions de visons. Alors que c'est un pays qui met pas de fourrure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on exporte pour faire de l'argent, on est capable de faire un peu n'importe quoi. Voilà, bon, on sait très bien de toute façon d'où ça vient tout ça.
Alors vous proposez des solutions concrètes. À la fin du film, par exemple, réparer un objet caché plutôt qu'en acheter un nouveau. Vous dites mettre son argent dans les banques qui ne financent pas les énergies fossiles, mais lesquelles? Comment on les connaît? La BNP, la LCL, la Société Générale, Crédit Agricole.
on cherche sur Internet. Non, il y a beaucoup de banques solidaires qui ne le font pas. Ce qui est important, il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Le vaccin changement climatique, c'est toi et moi, ce qu'on va faire aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de le faire, parce qu'agir rend heureux. Et donc de se battre. On va vers un monde difficile et compliqué. Quand on regarde les chiffres, on parle de la 6e extinction, on parle quelque part de la fin du monde, de la mort de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est ça qui est compliqué. Ça nous dépasse tout ça. Mais on peut tous faire quelque chose et on a la mission de le faire. Et ce n'est pas la faute des politiques, ce n'est pas la faute des lobbies. C'est la nôtre. Tous responsables.
Je vous interromps parce que vous pourriez parler pendant des heures. Il vous reste du coup plus que 20 secondes pour parler de votre prochain projet auquel vous teniez, à parler.
Ça s'appelle France, une histoire d'amour, et c'est une histoire formidable où on va demander à tous les facteurs de France de photographier leur français préféré, et on va en faire un film après. Comment vous savez, les Allemands ont un truc formidable, ils disent être heureux comme Dieu en France. Oui. Et Dieu, la France, c'est un pays formidable, et on voudrait travailler. On va aller à la rencontre des Français pendant 3 mois, un road movie, et on va partir de tout ce travail formidable qui va être fait par les facteurs de France au mois. Vous êtes tous, votre facteur va venir, il va vous demander de vous photographier, et vous allez aussi photographier votre facteur. Voilà. Je dis d'arrêter, mais c'est un projet formidable.
Je vous dis d'arrêter.
France, une histoire d'amour, film qu'on va tourner.
Et on pense à Jacques Tati. Merci beaucoup, Yann Arthus Bertrand. Je rappelle, Legacy, c'est ce soir à 21h sur M6. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Karim Rissouli, qui porte la nouvelle émission de France 5 qui a démarré hier, c'est ce soir. Débat avec des intellectuels et des philosophes, il sera notre invité, et des artistes. Et puis le créateur de la série à succès Alex Hugo, Nico Takian, il sort un nouveau polar qui s'appelle Solitude. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, c'est le titre. Et je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.